des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission des livres plein les oreilles cette semaine encore, animée pour vous par Clotilde Seille. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur d'un livre, je devrais dire, si Claudia Larochelle était là, d'ailleurs elle sera là, Claudia, un petit peu plus tard, l'autrice d'un livre à saveur polar social. Nous sommes dans le Grand Nord, deux jeunes filles sont retrouvées assassinées à Schefferville, où les gens ne sont pas franchement bavards et particulièrement face à des peaux blanches. Et puis Serge Bradet, vous savez, qui est un passionné d'histoire, qui aime aussi se projeter dans l'avenir autant que dans le passé, eh bien il nous plonge cette semaine dans le décor d'Homo Deus qu'il a lu pour nous, qui nous transporte dans un 21e siècle, celui qu'on a commencé à vivre, un 21e siècle qui n'a rien de reluisant. C'est le moins qu'on puisse dire. En seconde partie, donc, je vous le disais, Claudia Larochelle a lu pour nous des livres de deux de vos auteurs préférés, Margaret Atwood et Daniel Pennac. Et puis enfin, l'ami Gérald Cousineau va nous offrir comme lecture « Les enfants des jours » de l'auteur uruguayen Eduardo H. Galeano. Tous les livres dont il sera question à cette émission sont bien entendu disponibles en version audio, puisque c'est l'émission des livres plein les oreilles qui s'ouvre, animée pour vous par Clotilde Seille. On va commencer tout de suite avec un extrait du livre d'Isabelle Lafortune.
Émile était revenu sur ses pas, suspectant sans doute quelque chose de louche dans mon attitude. Il m'a laissé encore aller, mais sa façon d'agir signifiait que mon plus grand rôle tirait à sa fin. Je le soupçonnais d'avoir envie de rire en me voyant jouer à la police. Mais tant que Macha nous donnait de l'information, il n'osait pas m'interrompre. « Es-tu malade dans la tête? Ils sont jamais venus me voir, Inoué. Puis c'est sûr que je serais pas allé les voir non plus. Pourquoi? T'aurais pu aider à les retrouver. Et toi, ça paraît que tu viens pas d'ici. Imagine-toi donc que le Marc, c'est un grand chum du chef. Puis que lui, il est bien content de le présenter à la plus belle fille de la ville. Les hosties de police lettres, c'est... Il m'aurait accusé d'être une jalouse. C'est sûr que c'est pas l'ami du chef qui aurait fait une affaire de même, parce qu'il travaille sur le gros projet de la mine en haut. Sauf que la gang de Schaeffer veut rien savoir. Notre chef, là, il se prend pour un blanc. On l'aime plus ben ben. Il commence à devenir snob comme vous autres. Puis tu sais ça comment, toi, que la gang de Schaeffer ne veut rien savoir? Mon père, le chef de Matimekoche à Schaeffer, c'est son ami.
Voilà exactement le genre de livre que je n'aurais pas pu lire ici. Isabelle Lafortune, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez parce que c'est vous qui avez écrit ce livre dont on vient d'entendre un extrait, mm-hmm. Terminal, Grand Nord. Mm-hmm. C'était lu ici, d'ailleurs, je vais le dire, par Silvio Leblanc.
Archambault.
Archambault,
oui.
Ah, je pensais que c'était si. Ah, bah, écoutez, alors vraiment, bah, alors merci beaucoup de me reprendre. Alors c'est bon. C'est ma faute, mais ça fait rien. On va pas recommencer ça pour autant. C'est un Silvio, en tout cas. Et vous avez remarqué comment c'est difficile les dialogues. Et je trouve qu'il fait ça tellement bien. C'est parce que il faut pas en faire de trop, mais il faut quand même en mettre.
Ah oui, effectivement, c'est pas simple de savoir aussi qui parle, ouais. De changer de tonalité, mm-hmm. juste un peu, mais comme vous dites, pas trop, parce qu'effectivement, c'est pas un truc qu'on acte, mais c'est un truc qu'on lit. Donc,
exactement.
Et dans mon roman, il y avait plusieurs dialogues, donc il y avait une difficulté supplémentaire pour le lecteur.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnages et qui sont à des niveaux différents.
Exactement.
Alors, on ne parle pas seulement de la peau, mais on parle aussi de l'âge, on parle de la culture, on parle du bagage culturel, on parle de... Alors, il y a différents niveaux de langage. Bon, comme cette Macha, par exemple, c'est évident que... Alors, elle est du Grand Nord. C'est de quelle nation dont on parle plus particulièrement?
En fait, c'est les Inuits qui sont situés à cette île et à Chefferville.
Oui, oui.
Bon, d'ailleurs, la plupart des Inuits ont la famille à Chefferville et vice-versa, là. C'est comme la continuité de...
Bon, alors moi qui connais pas, qui n'ai pas encore la carte du Québec, même après 30 ans complètement dans les oreilles, là, je ne me rendais pas compte d'ailleurs, je me disais Chefferville, par rapport à cette île, c'est 500 kilomètres quand même.
Ah, c'est loin, 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 je peux vous le dire, moi. Quand on arrive à cette île, on pense, la première fois que je suis allée, là, je vais vous raconter ça, mais c'est très, très drôle parce que moi, j'arrive de Montréal et puis bon, je suis toute jeune et puis j'ai pas voyagé tant, mais j'ai pas roulé ma bosse encore assez. Et j'arrive, j'ai fait 12-13 heures pour me rendre à cette île en voiture. Mm-hmm. Et puis là, ils me disent, lui, il faut prendre le train. Alors, moi, le train, c'est une heure, hein, tout à Montréal. T'sais, à partir de Montréal, tout est à une heure, là, donc pour moi, c'était à une heure. Mais non, c'est à 13 heures. 13 heures de train de cette île. Alors, je peux vous garantir que c'est vraiment loin.
C'est le bout du monde encore maintenant.
C'est vraiment le bout du monde.
Parce que...
Mais c'est magnifique, hein, cela
oui,
dit.
Oui, c'est ça. Parce que vraiment, tout se passe beaucoup entre cette île et Shefferville.
Exact.
Vous êtes... Donc, vous n'êtes pas natif du tout de ces coins-là. Qu'est-ce qui vous a attiré? On va commencer par ça. Pourquoi un livre? Pourquoi un polar? Je dis un polar social parce que vous pointez du doigt. Il y a plusieurs gros plans sur les phénomènes que l'on connaît. Voilà. Et c'était important pour vous de souligner, encore une fois, tout ce qui ne va pas encore entre les Premières Nations et les Blancs. Parce que ce n'est pas encore facile, mais ce n'est même pas facile entre eux.
Non, en fait, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont loin, qu'ils n'ont pas accès à tous les services. C'est extrêmement cher vivre le coût de la vie, là, est incroyable à Shefferville.
Ah, oui.
Ce qui fait que, déjà là, on a des inégalités au niveau social, au niveau justement des revenus et tout ça. Et bon, à l'intérieur même de la ville, évidemment, tout le monde connaît tout le monde. Il y a, je crois que la population, c'est 1600 maintenant, Inuits, Naskapi, Blancs et restants de la population incluse. Là.
Ah, c'est ça, les Naskapi, c'est ça, c'est
les
la nation Naskapi.
Puis, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, tout le monde connaît tout le monde, comme la grosseur d'une école secondaire. Alors, imaginez-vous les gens d'une école secondaire qui se ramassent finalement dans un pays, dans une ville. Et, alors, voilà.
Avec deux jeunes femmes qui sont assassinées.
Oui, et qui ne viennent pas de Shefferville.
Qui ne viennent pas de Shefferville.
Elles ont été retrouvées assassinées à Shefferville, mais elles sont natives de cette île.
De cette île.
Alors, d'où la question, mais que faisaient-elles là?
Et des Blancs policiers qui débarquent là-dedans. On les aime pas beaucoup, mais là-dedans, il y a une fille quand même qui est une native également de cette île ou de
cette île, de Maliutena.
Exactement. Donc, en tout cas, là, je suis allée aussi à cette île et j'ai visité cette réserve-là. Alors, ça m'a fait plaisir que vous nous en parliez. Et elle, c'est un retour aux sources. Hein. Elle accompagne papa.
Exact.
Il y a un écrivain aussi, qui est l'œil. Excusez-moi, là, je fais un petit peu tous les personnages.
Allez-y.
C'est difficile, quand on accueille une auteure de polar, de parler du synopsis en détail.
Bien sûr, parce qu'il ne faut pas être vulgaire.
Ben non. Alors là, on met l'ambiance, OK?
C'est
alors,
bon.
Entre Shefferville et cette île, deux jeunes femmes assassinées.
Exact.
De façon sordide, on l'apprend de plus en plus. Il y a une mine, on va dire ça. Donc, il y a une notion de jeu de pouvoir là-dedans. Ça remonte jusqu'au premier ministre, on peut dire ça aussi. Mm-hmm. Il y a des personnages un peu glauques, comme ce Sam. On ne sait pas trop s'il est brillant ou s'il est complètement dévasté par quoi que ce soit.
Ouais, on ne le sait pas.
Il ne veut pas me répondre! Mais là où je voudrais aussi insister, c'est que c'est vraiment intéressant, c'est au niveau de la vie que l'on retrouve aussi bien des peurs que l'on vit aussi bien à cette île qu'à Shefferville, dans ces réserves-là, dans ces lieux-là qui sont au bout du monde. Je trouve que vous en faites une description. Tantôt, vous parliez de la vie chère. Et la phrase d'après, quand on en parle, quand vous l'évoquez, c'est quelqu'un qui dit « Oui, mais regarde, déjà au départ, on chasse et on pêche. » Alors, ça fait déjà ça de gagner. On aura toujours
ça,
de quoi manger.
C'est un personnage qui dit quelque chose comme
ouais,
ça. Oui,
oui, oui.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il y a toutes les problématiques aussi de l'isolement. Moi, quand je suis allée à Chefferville, bon, écoutez, je suis allée la première fois parce que mon ex-conjoint était natif de là-bas.
Ah, OK.
Donc, c'est pour ça que je suis allée à Chefferville. Ensuite, bon, j'ai travaillé un peu à l'hôtel, j'ai fait un peu de suppléance à l'école, bon, vraiment très sporadiquement, mais ça m'a donné quand même l'idée de c'était quoi la vie. Même à l'école secondaire, j'enseigne le cours éducation choix de carrière, imaginez-vous. Et puis là, c'est pas approprié. En fait, le contenu du cours que j'avais à montrer était absolument inapproprié, dans la mesure où il n'y avait aucune résonance entre le contenu puisque ces jeunes-là étaient en train de vivre. Alors, tout ce que je suis en train de dire, ça passait dans le beurre, là.
Alors, il n'y
avait rien. Et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Je pense que les programmes en éducation ne sont pas nécessairement adaptés. Puis je pense que ça mériterait, là. Mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'améliorations. Les gens sont de plus en plus sensibles. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je pense qu'au niveau là, des Premières Nations et tout ça, je pense qu'ils se prennent en main et tout ça. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils se font, eux, de récupérer leur culture et tout ça et de devenir autonome.
C'est pour ça que tantôt, quand je vous disais que c'était encore une population à problème et tout ça, puis les soucis entre les blancs et les non-blancs, vous aviez l'air de faire un peu une grimace. Pourquoi?
Ben, en fait, c'est parce que c'est pas tout blanc et tout noir.
Non,
en fait,
c'est
je pense
ça.
Que,
d'accord.
Comme moi, je suis en contact avec des gens à Chefferville, ils sont absolument fabuleux. Je sens pas cette différence-là, moi, entre les gens. Ben, peut-être que c'est moi, mais honnêtement, quand je regarde un Innu, pour moi, c'est
oui, mais c'est notable dans votre livre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'eux, à la limite, ben, c'est peut-être pas même les Blancs par rapport aux Premières Nations, mais on voit des gens, ils se méfient tous, ben justement, là, cette macha, ils se méfient tous de ce flic.
Mais avec raison, par contre,
oui.
Parce que l'histoire nous montre qu'elle a quand même un peu raison de se méfier.
Je voulais pas le dire. Ça, c'est vous, ça, c'est vous.
Moi. C'est moi, j'assume.
Isabelle Lafortune, je voudrais rappeler le titre de ce livre. Terminal Grand Nord, c'est une production Vues et Voix, donc maintenant c'est un livre audio que vous pouvez vous procurer, soit en passant si vous voulez l'acheter, le garder pour vous, ben vous passez par livresonore.vuesetvoix.com ou sinon, comme toujours, il sera également disponible en version adaptée, accessible au SQLA. Isabelle Lafortune, j'ai beaucoup de plaisir, je vous avouerai qu'il reste encore 100 pages à lire.
Ah oui,
et
hein?
Je voulais pas les lire parce que je me suis dit, gaffeuse comme je suis, Je vais faire une gaffe, puis je vais leur dire à la fin. Alors, j'ai tellement hâte de savoir ce qui est arrivé à ces deux petites filles-là, adolescentes, jeunes femmes en tout cas. Et merci beaucoup. Très belle écriture en passant.
Ça me fait vraiment... Ça me fait plaisir.
Oui.
Ça me fait plaisir
oui.
Parce qu'évidemment, il y a le polar, mais il y a aussi l'écriture
oui.
derrière qui est importante pour moi.
Oui, oui. Très belle description de la vie là-bas, du mode de vie là-bas. Très bien. Vraiment superbe.
Oh,
Isabelle
merci.
Lafortune. Alors, ne passez pas à côté de ça. Terminal Grand Nord. Et si on finit avec une chanson du groupe Cachetine, vous allez vous dire oui, bah évidemment. Mais non, c'est parce que c'est vrai qu'ils sont de là-bas. Ils sont
tout
de là-bas encore, de cette île. Et eh bien, le groupe Cachetine a son importance à un moment donné dans le livre. Et je ne vous en dis pas plus. Merci Isabelle Lafortune.
Ça me fait plaisir. No, to mess now, no.
Le groupe Kashtin, Isabelle Lafortune est partie, est sortie du studio, mais il y a quelque chose qu'elle nous a dit juste avant de partir, et que, parce qu'on peut l'annoncer, mm-hmm. ça va donner lieu à un film,
oui, ben
Terminal Grand Nord,
elle,
oui, mm-hmm. qui sera réalisé par François Bouvier, celui à qui on doit la Bolduc mm-hmm. notamment. Alors, on ne sait pas encore quels seront les comédiens qui vont tenir les rôles des personnages de ce formidable polar, mais c'est déjà annoncé, alors mm-hmm. ça va donner lieu à un film. La belle voix que vous avez reconnue à côté de moi, c'est celle de Serge Bradet. Salut Serge.
Bonjour Clotilde.
Alors Serge, généralement on fait un retour en arrière, mais là on se propulse un petit peu plus en avant de
oui.
2019.
Oui,
là,
oui, oui, oui.
Dans ce 21e siècle, mm-hmm. tel qu'il nous est décrit, mais surtout tel qu'il est imaginé, quoique, je ne sais pas si imaginer
oui,
le bon
ben,
mot.
Moi, vous savez, l'image qui m'est venue en lisant mm-hmm. le livre, c'est Jules Verne.
Ah oui?
C'est un peu boiteux, là, parce que bon, mais si on, au 19e siècle, Verne s'est servi des inventions, des avancées de la science pour se projeter dans le futur. Bon, évidemment, compte tenu de ce qu'est la science aujourd'hui, Harari va beaucoup plus loin, comme on va le voir.
Parce qu'on parle bien de l'auteur oui. Yuval oui. Noah Harari, celui oui. à qui l'on doit déjà, entre autres, Sapiens.
Exactement. Alors, juste quelques mots pour M. Harari, Yuval Noah Harari. Il est israélien, il est né en 1976, et c'est un historien et professeur d'histoire israélien. Il enseigne à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, il a ce qu'il faut, je veux juste vous situer le livre, parce oui. que ça fait partie d'une trilogie.
Okay.
Alors, le premier livre, ça a été « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Et le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est la suite, « Homo Deus, une brève histoire de l'avenir mm-hmm. ». Alors, il a parlé de l'histoire de l'humanité, là, l'avenir. Et il y a un troisième, publié en 2018, tout récent, qui est « 21 leçons pour le 21e siècle ».
Qui n'est sûrement pas encore enregistré,
non,
mais c'est une question,
ouais.
mm-hmm. ça va se faire, ça c'est
ouais.
certain.
Mm-hmm. Alors... Petite note, Monsieur Harari pratique la méditation Vipassana depuis 2003 et il a dédié d'ailleurs le livre Homo Deus à son maître, Monsieur S.N. Goenka. C'est un homme qui médite 2 heures par jour.
Oh!
C'est quand même... donc c'est un, il fait souvent de longues retraites, dont...
Il y en a qui médisent,
Alors, juste quelques mots sur l'ouvrage « Une brève histoire de l'humanité ». C'est un livre qui a été traduit en près de 30 langues, hein? Là, pour Homo Deus, je ne sais pas encore, je n'ai pas de notes pour les... Mais j'imagine que ça va être traduit également. Ben, c'est déjà traduit en français, en tout cas, français et anglais. Et dans ce livre-là, ben, il retrace, lui, toute l'histoire de l'humanité depuis l'évolution de l'Homo sapiens, de l'âge de pierre, hein, jusqu'au 21e siècle. Ah, écoute, vraiment, là, l'histoire.
Un 21e siècle, pas jojo. Hein?
Pas jojo. Non. Harari, dans Homo Deus, maintenant le livre dont on parle aujourd'hui,
ouais.
alors il examine les grands mouvements de l'évolution de l'humanité depuis la préhistoire et fort des dernières découvertes mm-hmm. De la biologie, de la technologie informatique et des sciences sociales. Et à partir de ça, il nous interroge sur l'avenir de l'homme.
Via quoi alors? La religion, via...
Religion, via la technologie,
science.
La science, nos rapports avec les animaux, nos rapports... c'est tout. Alors, il faut dire que c'est un livre qui est un peu... Moi, j'ai des amis qui ont lu... Moi, j'ai pas lu le premier, là, de l'Humanité, mais des amis ont lu l'Humanité et ils disent, on a beaucoup embarqué et une brève histoire de l'avenir, c'est ardu. À dire que même le premier, c'est un livre, vous lisez 40-50 pages, puis vous attendez 2-3 jours, vous digérez, puis vous attendez 2-3 jours pour par la suite, parce que c'est du contenu. C'est quelque chose qui est assez dense, assez ardu. Alors, l'auteur, il spécule pas sur l'avenir, mais il identifie ce qui pourrait produire à terme les logiques sociales et comment les humains surtout vont se mobiliser pour freiner ça. Je vous lis 3 lignes
oui.
à la page 78 de son livre. Toutes les prédictions qui parsèment ce livre, parce que ce sont des prédictions, hein, c'est mm-hmm. ça, ne sont rien de plus qu'une tentative pour aborder les dilemmes d'aujourd'hui et une invitation à changer le cours de l'avenir. On pense à quoi en lisant ça? Les changements climatiques.
Ah ben oui, bien sûr.
Changement climatique.
Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il est question de c'est ça, l'argent.
Ouais.
Il est question de la mort, parce qu'il dit que
oui.
finalement, c'est le prochain défi de
justement,
l'humanité. C'est là que vous venez en venir.
Oui,
hein.
oui,
J'avais
oui,
hâte de
oui.
vous entendre là-dessus.
Oui. Pour lui, la question de savoir quelles sont les priorités de l'humanité au cours du troisième millénaire, c'est... D'ailleurs, l'histoire, là, l'histoire en général, nous apprend toujours le caractère imprévisible des aspirations humaines. Au début du 20e siècle, qui aurait pu prédire qu'on aurait deux guerres mondiales, qu'on irait sur la Lune, etc., etc., qu'il y aurait des fous au pouvoir en Allemagne, en URSS, etc., etc., et qu'il y aurait des grands bonheurs aussi qui arrivent, là, bon. Il est probable que les grands projets de l'humanité...
Excusez-moi de rire, mais oui. Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire qu'on aurait un Trump à la tête des États-Unis?
Embarquez-nous pas dans ça, là, parce que franchement, on va pas.
Oui,
on
c'est
va
vrai,
partir,
vous avez raison.
Ah, c'est, tout le monde est dans...
Non, vous avez raison.
Alors, les grands projets de l'humanité au 21e siècle sont l'atteinte de l'immortalité. Pensez à toutes les découvertes qu'il y a actuellement sur les... on peut greffer des cœurs, on peut greffer des foies, on essaie de découvrir un médicament, on essaie de vivre, on dit on va vivre jusqu'à... D'ailleurs, actuellement, on vit plus vieux que la génération de nos parents. Regardez, il y a des gens à 90 ans, ça voyage encore, puis c'est évidemment si vous n'avez pas de maladie, là, mais on essaie de freiner les maladies, de les empêcher de se développer, donc on veut atteindre une certaine forme d'immortalité. Deuxième, la clé du bonheur. Où est le bonheur? Ce qui fait qu'on va hisser l'homme dans l'immortalité au rang de quoi? L'homme et la femme, Dieu et déesse. Parce que vous êtes immortel.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait,
oui,
mon ami?
Oui, je vais parler des trois,
Exactement. Ouais. Alors, je vous propose donc cet extrait de Homo Deus, dont il est question tout de suite, livre de Yuval Noah Harari.
Les êtres humains se satisfont rarement de ce qu'ils ont déjà. La réaction la plus commune de l'esprit humain face au travail accompli n'est pas la satisfaction, mais le toujours plus. Les hommes sont toujours à l'affût du mieux, du plus grand, du plus savoureux. Quand l'humanité possédera d'énormes nouveaux pouvoirs, quand la menace de la famine, des épidémies et de la guerre sera enfin écartée, qu'allons-nous faire de nous? Que feront les chercheurs, les investisseurs, les banquiers et les présidents à longueur de journée? Ils écriront de la poésie? La réussite nourrit l'ambition. Et nos réalisations récentes poussent l'humanité à se donner des objectifs encore plus audacieux. Avec les niveaux de prospérité, de santé et d'harmonie sans précédent que nous avons atteints, et compte tenu de notre bilan et de nos valeurs actuelles, l'humanité se fixera probablement comme prochain objectif l'immortalité, le bonheur et la divinité. Après avoir réduit la mortalité liée à la faim, à la maladie et à la violence, nous allons maintenant chercher à triompher de la vieillesse et de la mort elle-même. Après avoir sauvé les gens de la misère profonde, nous allons chercher à les rendre vraiment heureux. Et ayant sorti l'humanité de la brutalité des luttes pour la survie, nous allons chercher à hisser les hommes au rang de Dieu, à transformer Homo sapiens en Homo Deus.
Rien que ça.
Rien que ça, oui. Mais ça, l'extrait représente très, très bien.
Mais c'est ça, le livre.
C'est ça, exactement.
Mais il y a des choses moins... beaucoup plus noir, sombre.
D'ailleurs, pour conclure, là, voyez-vous, il y a trois parties. Il y a une introduction à son livre et trois parties, partie 1, 2 et 3, avec plusieurs chapitres.
Oui.
Alors, la première partie et la troisième sont celles qui m'ont le plus accroché.
Okay.
La première partie, c'est « Homo sapiens conquiert le monde ». À l'époque de l'Anthropocène, loin, l'homme, grâce à son intelligence, a asservi le monde animal, de domestiquer le cheval, l'âne, le chien, L'auteur pose la question de savoir si des ordinateurs dépassant les hommes en intelligence et en puissance pourraient traiter les hommes de la même façon que les hommes ont traité les animaux. Ah.
On n'ose même pas y penser. Comment... Stephen King n'y a pas pensé encore à ça. Ouais.
Comme on dit en bon québécois, watch out.
Oui, hein. Ouais.
Ensuite, le deuxième, c'est Homo sapiens donne le sens au monde. Et le troisième, moi qui m'a vraiment là, j'ai pris, Homo sapiens perd le contrôle. La bombe à retardement, ce sont les laboratoires. Il y a quelques semaines, à l'émission Découverte, extraordinaire, on peut aller corriger un gène dans un embryon dans le sein de la mère, qui a 2-3 mois. Corriger une maladie. Mais c'est merveilleux, corriger une maladie. Par contre, on a en quelque part, dans un laboratoire, le gène Hitler, le gène Staline. Vous l'injectez à l'embryon et vous créez un monstre. Des monstres. Ah, imaginez, hein? C'est ça. On dit aussi que la machine va devenir plus performante que l'homme et va se substituer radicalement aux humains. Les seuls métiers qui resteraient sont ceux où le remplacement de l'homme par une machine n'est pas rentable.
Alors, c'est très, très, très passionnant, Serge Bradet. Ouais. Merci beaucoup. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir de Yuval Noah Harari. Bien sûr, disponible en version accessible au SQLA ou sinon en version commerciale à peu près sur toutes les plateformes qui offrent des livres audio commerciaux. L'avantage sur les livres gratuits, c'est que ce sont des livres comme les livres papier que vous pouvez garder chez vous indéfiniment.
Absolument.
Et refeuilleter à l'occasion. Merci beaucoup, Serge Bradet.
Plaisir.
Plaisir. Restez des nôtres en seconde partie, si tout va bien, Claudia La Rochelle et Gérald Cousineau. Des livres pleins les oreilles, la suite. Et en cette seconde partie, je vais retrouver avec grand plaisir au téléphone aujourd'hui Claudia La Rochelle qui se penche pour nous sur deux livres. Un livre de Margaret Atwood qu'on annonce comme son nouveau chef-d'œuvre et un livre de Daniel Pennac. Et puis juste en fin d'émission, je vais retrouver l'ami Gérald Cousineau qui va nous parler d'un livre d'Eduardo Galeano. J'ai très hâte d'entendre parler, ça s'appelle Les enfants des jours et non pas les jours des enfants comme j'ai tendance à le dire. Alors, on va téléphoner à Claudia tout de suite en attendant une chanson, L'aquaboniste de Serge Gainsbourg, chantée par Jane Birkin. Pourquoi? Parce qu'il y a un des personnages dans C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood dont va nous parler Claudia La Rochelle qui dit souvent à quoi bon? À quoi bon? Exactement comme dans la chanson de Gainsbourg.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort, à raison, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
J'adore cette chanson. Bonjour Claudia La Rochelle.
Bonjour Clotilde Seille.
Alors, l'aquaboniste, parce que je pense que dans le premier livre dont vous allez nous parler, il y a un personnage qui dit souvent « à quoi bon ?» si je ne m'abuse, dans « C'est le cœur qui lâche en dernier » de Margaret Atwood. C'est vrai ça?
Vous ne vous abusez pas, mais eux sont très désabusés, ça c'est sûr.
On dit, Claudia, que c'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. On dit que c'est son nouveau chef-d'œuvre. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, tellement, là, tellement. Oui, oui, au-delà de tout, même de La Servante écarlate, là. Ah, tellement, là. Oui. Vraiment, à ne pas confondre avec « C'est le cœur qui meurt en dernier, hein? »
Oui, de l'ami Lalonde, hein, c'est ça?
Ben, c'est de l'ami Lalonde, certain. Mm-hmm. Donc, tu sais, puis moi, je me souviens, il y avait eu d'abord le cœur, « C'est le cœur qui meurt en dernier », puis on avait reçu tout de suite le cœur qui lâche en dernier. J'avais fait « Quelle mauvaise traduction, c'est malheureux,
c'est
parce qu'on va les confondre, mais bon. » Elle tire très, très bien son épingle du jeu, Margaret Atwood, notre grande Canadienne extraordinaire, qui n'a pas été encore nobélisée, malheureusement. Oui, qui n'a pas été nobélisée, qui devrait.
Je sais qu'elle avait reçu une année le prix Métropolis Bleu, par exemple, ici, à Montréal.
Mais jamais. Ce qu'on se dit, elle l'a pas eu encore.
Non, elle l'a pas eu. Un jour.
Non, c'est Alice Munro qui l'a eu. Alors,
c'est vrai.
Une autre de ces fabuleuses dystopies incroyables. Alors, c'est l'histoire de Stan et Charman, couple américain qui est touché par une crise économique et ils sont obligés de vivre dans leur voiture. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on leur propose, comme une publicité qui est devenue une sorte de leitmotiv aux États-Unis, de vivre à Cantillions, qui est une communauté dans laquelle ils alternent chaque mois entre la maison et la prison. Prison où ils font des travaux forcés un peu. Mais ils ont comme un mois de délices et de confort et un mois où ils travaillent un peu plus, puis c'est un peu plus rude pour eux. Et pendant que mais ils ne payent rien. C'est ça l'histoire.
C'est ça. Bon, d'accord. Parce que je me disais, c'est quoi le rapport? Ben, OK, d'accord. Non. C'est parce que pendant ce temps-là, la vie ne leur coûte rien. L'État leur fournit le gîte, mais on s'entend que c'est très rudimentaire.
Exactement. Mais tout ça, c'est très logique hein, dans la musique et dans la manière dont s'exprime Atwood. Et pendant qu'ils sont en prison, il y a un autre couple qui habite leur maison. Alors, on rentabilise tout ça, puis ça crée un espèce d'univers à quatre, mais les couples ne se voient jamais. Et Stan, à un moment donné, va avoir une attirance amoureuse très, très forte pour l'autre femme, en tout cas ce qu'on pense être l'autre femme de l'autre couple, et ça va venir bouleverser l'ordre des choses. Bon, là, je dois dire, Atwood est une magicienne, c'est une clairvoyante. Elle voit dans le futur cette femme-là, on le sait, on lui a souvent dit avec La Servante écarlate à quel point il est très, très près d'une réalité qui pourrait arriver, et c'est ce qui fait très peur. Et elle est toujours au-delà des choses, elle va au-devant des choses. Et même si ça ne s'est pas passé, c'est toujours ça qui est fascinant chez elle, c'est qu'on dirait que ça se peut. On dirait, et c'est ce qui fait peur. Alors, elle est comme une éponge qui absorbe les éléments clés de l'actualité et en fait des monstres dans l'écriture. Et pourtant, ces monstres-là, on peut y croire. C'est ce qui est fort chez Atwood. C'est ce qui fait qu'elle se distingue des autres. La traduction de « C'est le cœur qui lâche en dernier », elle est très bien.
Bon.
Quoique un peu franchouillarde, malgré tout, parce qu'il y a des expressions parfois qui sont un peu... appuyés dans la langue française ou qui nous sont peu habituels pour nous au Québec.
Ça, je l'avais remarqué quand j'ai monté l'extrait. Puis honnêtement, moi qui suis française d'origine, ça m'a un peu dérangé. C'est quand j'entends parler de la caisse au lieu de la voiture ou du char. Non, mais c'est vrai que ça me... Mais bon.
Ouais, la caisse.
Ça vous a pas trop dérangé, vous? Toi?
Non, pas tant, mais je le précise quand même pour les lecteurs.
Mais oui,
Mais ils vont prendre un plaisir fou à entrer dans cet univers-là. Puis la force là, chez Atwood, juste en terminant avant les extraits, c'est qu'elle maîtrise, elle ne met pas trop de mots dans ses livres. Ça a l'air bête à dire, mais bien que ce soit des univers très denses et vastes, il n'y a pas trop de mots. On n'est pas submergé par tout l'aspect littéraire, par le vocabulaire, par cet amas de mots et d'images fortes. Voilà.
Alors, un extrait, justement, de ce livre de Madame Margaret Atwood, « C'est le cœur qui lâche en dernier », tel qu'on peut l'entendre en ce moment sur les plateformes de vente de bouquins audio.
Le lendemain matin, ils abordent l'ultime étape. C'est à peine si Stan regarde les conditions générales, tant Charmaine est impatiente de signer. Après tout, ils ont été choisis, dit-elle, alors que des tas d'autres ont été refusés. Elle lui décoche un sourire un peu énigmatique quand il appose son nom sur le formulaire. « Oh, merci, » s'écrie-t-elle. « Je me sens tellement plus protégée maintenant. » Puis, les ateliers peuvent sérieusement démarrer. Ou, comme le dit un des animateurs pour plaisanter, maintenant qu'ils ont eu les hors d'œuvre, ils vont passer au plat de résistance. Ils sont à deux doigts d'apprendre une foule de choses stupéfiantes, ce qui va requérir leur concentration totale. Atelier des messieurs par ici, des dames par là, car les deux groupes vont être confrontés à des défis, attentes et devoirs différents. Et par ailleurs, quand ils seront dans la phase « prison du projet », point qui leur sera expliqué plus en détail sous peu, ils seront séparés pendant un mois. Alors, autant qu'ils s'habituent, les prévient en riant l'animateur de leur premier atelier. De toute façon, l'abstinence attise la passion. Ils le savent d'expérience, il en est sûr. Nouveau ricanement.
Si je ne m'abuse, c'est Jean-Marc Dalpé qui a lu ça.
Ah oui!
Oui.
C'est ça. C'est
alors, tout de suite, on passe à du Daniel Pénac avec Mon frère.
Mon frère, donc, par Daniel Pénac, auteur de la fameuse saga Malocène, au fruit de la passion, chagrin d'école comme un roman. Mon frère, c'est probablement moi qui a presque tout lu. Pénac, bien que je ne sois pas nécessairement une femme de Pénac, mais je peux vous dire que c'est quand même le plus tendre, probablement, et le plus doux qu'il m'ait été donné de lire. Oui, vraiment. Et dans ce titre-là, mon frère, comme le titre, il est question de son frère, mais c'est quelque chose de très personnel pour Daniel Pénac parce que il se souvient de son propre frère, Bernard, qui était de 5 ans son aîné et qui est mort en 2007.
Oui, et qu'il aimait profondément.
Ah, hein. Oui. Oui, puis il l'a dit, il l'aimait, ils ne se sont jamais chicanés. Ils étaient en accord, ils menaient des vies à la fois. Sans être très proche, il menait des existences parallèles, mais en cohabitant, tu sais, dans l'univers, oui, d'une manière très, très douce. Il l'aimait tant que sa mort a laissé un immense vide en lui. Et ensemble, ils avaient en commun la passion pour les mots, pour la littérature et la lecture. Donc, peu après sa mort, il a monté Pénac au théâtre Bartleby le Scribe. Donc, c'est une nouvelle. Moi, j'avais oublié complètement l'existence de cette nouvelle-là.
D'Herman Melville, hein?
D'Herman Melville, donc l'auteur de Moby Dick. Mm-hmm. Une nouvelle, donc, ouais, ça date, là, quand même.
Pour moi aussi, honnêtement. Pouf.
Je pense que ça date de 1853, cette affaire, c'est très, très vieux. Et c'est une nouvelle de 70 pages, pétrifiante, formidable, mais très... c'est quelque chose de choquant, là, non, dans le sens de pas choquant, fâché, mais de... Bon, quelque chose d'exaltant autour de cet étrange scribe qui est raconté donc par Melville.
Oui.
Vous voyez, en alternance, donc, Pénac va raconter ce monologue qu'il a joué, donc ce texte de Melville, et son frère. Il parle des deux. Alors moi, j'aime ça quand on intègre quand même des éléments de l'extérieur ou de la littérature comme des références.
Bien sûr.
Qu'on mêle ça avec une part d'intime. Et il le fait super bien parce qu'il raconte aussi que son frère avait une certaine parenté avec Bartleby dans le comportement. Et on comprend pourquoi, cette espèce de mystère, cette discrétion, quelque chose d'insondable jusqu'à la toute fin. C'est ces deux personnages-là. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'à travers l'œuvre de Pénac, donc à travers mon frère, on redécouvre Melville et on redécouvre Bartleby le Scribe. Et en même temps, c'est un hommage, une ode à ce frère disparu, qui n'était pas connu, mais qui était important dans le monde et dans la vie de Pénac.
Alors, notamment sur le site de Gallimard, Écoutez lire, on peut découvrir ce livre-là, Mon frère, en audio, tel que lu par Daniel Pénac, extrait.
Jusqu'au jour où, cherchant moi-même le sommeil, je me suis demandé pourquoi j'avais monté ce spectacle. Et pourquoi n'avais-je mis sur scène que le seul personnage de ce notaire rendu fou par celui du scribe? Et pourquoi m'étais-je attribué son rôle? Le fait que la nouvelle me plaisait depuis toujours n'était pas suffisant. Il me fallut admettre que je jouais avec mon frère absent. Toute notre vie, nous avions joué ensemble. Je grimpais sur scène comme s'il était présent dans la salle. Comme si je lui rendais le biscuit au gingembre qu'il m'avait offert un jour. Un Bartleby ? Il n'était pas là, bien sûr. Il n'était plus nulle part. Mais je lui offrais son Bartleby tous les soirs. De son vivant, il avait aimé me voir jouer. Il venait à mes spectacles. Il me trouvait courageux de m'exposer sur scène. Il se déclarait fier de moi, comme pendant notre enfance, quand un exploit mineur, escalader un mur, plonger de trop haut dans un trou de notre rivière, venait compenser mes ratages familiaux ou scolaires. C'est à lui que je rendais mes comptes. Le 6 avril de cette année-là, un rêve me le confirma. Je l'ai noté, le voici. Nous sommes en voiture, Bernard et moi, sur l'autoroute du Sud. Nous allons chez nos parents. Il me demande des nouvelles de la pièce. « Ça marche, ton Bartleby ?»« Ouais, regarde. » Et je lui tends une lettre de Madame A., la directrice de l'établissement où Alzheimer a conduit notre frère puiné 7 mois plus tôt. Madame A. y déclare avoir vu le spectacle et l'avoir beaucoup aimé. Bernard prend la lettre, commence à la lire, mais... brusquement, je me rappelle que dans cette même lettre, Madame A. me parle de sa mort à lui, Bernard. Elle me présente des condoléances tardives. Alors je lui arrache la lettre des mains, prétextant qu'elle est incomplète. Je ne veux pas qu'il apprenne sa propre mort de cette façon.
Touchant, tellement touchant. Hein.
Vraiment, surtout lu par Pénacle.
Ah, lui, ah. Lu par lui-même, c'est vraiment ouais. quelque chose. Alors merci, merci mille fois Claudia d'avoir, oui, d'avoir mis le doigt sur ces deux livres-là, disponibles au SQLA gratuitement en version accessible ou encore sur les plateformes, toutes les plateformes de livres audio donc si vous voulez conserver ce livre après l'avoir utilisé. J'ai une demande spéciale à vous faire, Claudia.
Oui.
À te faire.
Oui. Oui.
Je sais pas, mon petit doigt me dit que tu es en train de dévorer le dernier Stephen King.
Ah oui, L'Outsider, ah oui.
Alors, il n'est pas encore sorti, j'imagine, parce que c'est trop neuf. Mais quand ça va être sorti en audio, je veux entendre Claudia La Rochelle me parler de Stephen King.
Oui. Ça va vraiment me faire plaisir parce qu'en plus, il est très bon. Donc,
oui.
On est dans la dimension psychologique quand il l'explore, là, sans fantastique, sans, moi j'aime pas ça quand il va dans le fantastique, il y a quelque chose de très psychologique et c'est là qu'il excelle, alors voilà, on s'en va là-dedans.
D'accord, merci beaucoup Claudia, à une prochaine, bonne fin de journée.
Au revoir.
Salut, bye.
Que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais il n'est pas là, à qui la faute? À mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là. À qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
On a évoqué le livre « Mon frère » de Daniel Pénac avec Claudia Larochelle. On a écouté la chanson « Mon frère » de Maxime Le Forestier. Et on se tourne maintenant vers Gérald Cousineau et un drôle de calendrier dont il va nous parler aujourd'hui. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Les enfants des jours.
Hein? Oui, d'un monsieur que je ne connaissais pas jusqu'à tout récemment, l'auteur uruguayen Eduardo Galineo. Et quelle découverte que j'ai faite il y a quelques années.
Ah oui.
Alors, ce monsieur est né en 40, il est mort en 2015, malheureusement. Et il a été exilé deux fois, hein, d'abord de son pays natal, l'Uruguay, et ensuite d'Argentine. Et c'est pour ça qu'il a vécu une bonne partie de sa vie en Espagne. Donc, ce livre a paru en français en 2015 ou 2016. Les documents se contredisent là-dessus. Alors, c'est un éphéméride de littéraire. Il nous promène littéralement dans le temps et dans l'espace. Je pense que la date la plus lointaine, c'est un jour de l'année 47. Il parle de, mon Dieu, je ne sais plus quoi, c'est parce qu'il y a tellement de choses là-dedans.
Oui, oui.
Mais et on se retrouve jusqu'en 2008, donc vraiment l'espace est très vaste. Et bien sûr, il y a des pépites, hein. Il y a des petits bijoux dans tout ce calendrier, c'est quand même énorme, 365 jours.
Alors, où il relate des événements
de l'histoire mondiale, des événements de l'histoire mondiale qu'on a souvent carrément oublié. Il va faire remonter à notre mémoire des gens, alors des héros, des héroïnes qu'on avait oubliés carrément. Et je dirais tout de suite, Clotilde, il y a beaucoup de jours consacrés à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud. On peut comprendre, bien sûr, Galeano est uruguayen, et quand on connaît l'histoire de ces pays-là, on sait beaucoup de coups d'État, bon, et le rôle des Américains là-dedans, tout ça. Donc, rien ne nous est épargné, mais c'est extrêmement... Il est d'une érudition, ce monsieur, c'est proprement étourdissant. Alors, je sais que vous allez parler du 23 avril, mais juste parler de quelques jours comme ça.
Bien sûr.
Par exemple, il parle de l'invasion de l'Afghanistan. Bon, suite à ça, il y a eu une commission internationale dont faisait partie Galeano, d'ailleurs. Il raconte qu'un jour, un vieux chef religieux s'est amené devant les commissions et là, il a dit ces mots incroyables, mais vrais. « Les communistes ont déshonoré nos filles, ils leur ont appris à lire et à écrire. » Et là, cette page-là s'arrête là. Et je pense que ça dit tout.
C'est
incroyable. Il parle d'un jour d'octobre, je pense que c'est le 18 octobre 1929, les femmes au Canada sont désormais considérées comme des personnes. Incroyable.
Quelle année?
Et 1929, il y a moins d'un siècle, les femmes sont maintenant désormais considérées comme des personnes. Avant, non. Saviez-vous que jusqu'au 16 mai 1990, c'est pas très loin ça, 1990, l'homosexualité était reconnue comme, alors, elle faisait partie de la liste des maladies mentales reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Incroyable, mais vrai. Mais c'est ça qui est bien dans ce livre. Il nous rappelle des trucs qu'on avait carrément oublié ou qu'on ne savait pas. Par exemple, une autre chose, là, c'est savoureux, parfaitement savoureux. Il raconte que, à propos du 2 novembre, quand on est rendu au 2 novembre, jour des morts, il dit qu'il y avait en Haïti une tradition qui interdisait de mener le cercueil en ligne droite au cimetière. Alors, qu'est-ce que le cortège faisait? Le cortège faisait des zigzags, oui, des détours, pour que le mort soit carrément égaré, afin qu'il ne puisse pas retrouver le chemin du retour. Ah, oh, je trouve ça délicieux.
Vous savez quoi? 2 novembre, moi, c'est le jour de mon anniversaire, et à partir de maintenant, je penserai à cette anecdote, et oui, oui, j'arriverai en zigzagant. Mais il n'y a pas de danger que je me perde. Non, parce que moi, ce que j'ai bien aimé dans les extraits que j'ai trouvés, c'est qu'effectivement, oui, il nous rappelle des choses, mais il désacralise aussi d'autres choses en se permettant, par exemple, comme ce jour du 23 avril, mais je ne sais pas de quelle année. En ce qu'on sait, c'est que c'est une journée du livre.
Du livre, oui.
Et là, il nous dit qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'histoire de la littérature est un incessant paradoxe. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il va tout d'un coup annuler tout ce qu'on croyait savoir, des choses, des phrases, oui, des citations et des uns et des autres sur lesquelles on ne pensait jamais revenir. Par exemple, quel est l'épisode le plus populaire de la Bible? Adam et Ève mordant une pomme. Qui n'est pas dans la Bible? Platon n'a jamais écrit sa phrase célèbre « Seuls les morts ont vu comment s'achève une guerre ». Don Quichotte de la Manche n'a jamais dit « Ils aboient, Sancho, signe que nous chevauchons ». Voltaire n'a ni dit ni écrit sa phrase la plus connue « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ». Oui. Il y a celle-ci que j'adore. Sherlock Holmes,
oui,
n'a jamais dit élémentaire, mon cher Watson.
Et pourtant, on l'a répété jusqu'à satiété. Et vous parliez de désacralisation, je pense à une autre journée.
Oui.
Il parle de Alfred Nobel, inventeur, oui, de la dynamite, qui a créé le prix Nobel de la paix. Et là, Galliano écrit « Grâce à une fortune récoltée sur les champs de bataille. » Oh là là! C'est assez dur, ça.
Oui, bah oui, oui, oui.
C'est pas tout à fait le Nobel auquel on pensait, là. Mais il y a plein de trouvailles comme ça, enfin des trouvailles, des choses qui nous surprennent, qu'on avait carrément oubliées ou presque oubliées. Et là, oups, et on est content, on est très content que tout ça remonte à la surface. Et c'est un drôle de livre quand même, mais je trouvais ça passionnant du début à la fin.
Puis ça, c'est le genre de bouquin au témoin d'un doute, mais qu'on peut avoir sur la table de son salon.
Exactement.
Lorsqu'il est en imprimerie, en tout cas,
voilà.
Ou même si on l'écoute, on peut le prendre à peu près à n'importe quelle page et on va être surpris ou on va être amusé, on va être ému, on va être...
Voilà. Et c'est souvent ciselé comme un bijou. Hein. Beau travail d'écriture. Évidemment, c'est bien traduit, bien sûr. Et je souligne d'ailleurs que ça a paru au Québec. Hein. La traduction française a paru chez Lux Éditeur.
Oui.
Et je souligne également aux gens qui aimeraient ce livre, eh bien, il y en a d'autres de Galliano qu'on peut trouver en format adapté. Et croyez-moi, tous vraiment valent la peine d'être écoutés et savourés jusqu'au dernier mot.
Merci tellement de l'avoir dit et rappelé, parce que généralement, c'est une recherche que je fais lorsqu'on parle d'un auteur, et là, j'ai complètement oublié de la faire. Donc là, vous nous dites que de ce monsieur Galliano, on a Galliano, il y a beaucoup de,
voilà,
livres disponibles,
enfin, beaucoup,
gratuitement.
Il n'a pas écrit énormément,
non,
mais je pense qu'on en a au moins 3 ou 4 disponibles en format adapté. Donc vraiment, ça vaut la peine d'aller faire un tour de ce côté-là.
Bon, ben merci beaucoup, Gérald. Alors, je vous rappelle, pour les gens qui nous écoutent, Les Enfants des Jours de Eduardo H. Je ne sais pas à quoi correspond le H, mais sûrement un deuxième prénom, Galliano. Et c'est vraiment un livre à ne pas manquer, au moins pour s'endormir moins bête le soir.
Voilà.
À bientôt, cher Gérald.
Au plaisir.
Merci infiniment. Et mon Dieu, que ça passe encore toujours très vite, trop vite, cette émission-là. Je voudrais remercier mes invités du jour, Isabelle Lafortune, Serge Bradet, Gérald Cousineau et Claudia Larochelle. C'était Clotilde Seille qui vous présentait Des livres pleins les oreilles, l'émission, la seule émission au Québec et même au Canada et même autour de la planète, à ne parler que de livres audio, de livres à vous mettre entre les oreilles. Bonne semaine, mes amis, bonne lecture aussi. À la semaine prochaine. Salut.